Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Leïla Chaïbi, candidate à la France insoumise aux élections européennes. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, une attaque potentiellement terroriste a eu lieu aujourd'hui à Utrecht, aux Pays-Bas. Vendredi, un attentat contre deux mosquées de Nouvelle-Zélande a fait 50 morts. Quelle est votre réaction après cet acte terroriste qui a visé spécifiquement des musulmans?
C'est dramatique. D'abord, tous les actes terroristes sont à condamner. Mais là, ce qu'on constate également, c'est que ces derniers temps, il y a une recrudescence de l'islamophobie. Alors là, c'est vrai qu'on est dans un cas extrême, hein, où l'islamophobie est poussée à son paroxysme, on en vient à tuer des gens parce qu'ils sont musulmans. Mais je crois qu'il faut que ça nous alerte, parce qu'il y a une petite musique ambiante, et je trouve qu'il y a, notamment dans notre pays, où on n'a pas vu des actes islamophobes à ce point-là, avec cette horreur-là. Mais pour autant, je trouve que le problème dans ce pays, c'est que il y a une recrudescence des actes islamophobes. On l'a vu là dernièrement, à chaque fois quand on a des polémiques sur le port du voile, en fait, où on brandit les questions de laïcité, mais en fait comme un prétexte pour criminaliser, pour cibler une partie de la population qui est de confession musulmane, alors qu'il faut rappeler que la laïcité, c'est le droit de croire ou de pas croire, et c'est le droit pour chacun d'exercer sa religion comme il le veut dans sa sphère privée, et c'est pas le fait de criminaliser une religion comme celle-là. Donc je pense qu'il faut que ça nous alerte, et puis ça doit être encore un prétexte pour nous revendiquer l'égalité entre tous les êtres humains, quelle que soit leur culture et puis quelle que soit leur religion.
Leïla Chaïbi, l'attentat en Nouvelle-Zélande a été commis par un homme d'extrême droite qui dit s'inspirer de la thèse du grand remplacement, cette idéologie complotiste qui prétend que les immigrés sont en train de remplacer les Européens. Est-ce que vous voyez un lien entre les débats parfois irrationnels que vous venez d'évoquer autour de l'islam, autour des migrants aussi, et ce passage à l'acte?
Mais c'est vrai que là, en fait, on a une partie de la classe politique qui essaye d'attiser les peurs à l'encontre des migrants, à l'encontre d'une minorité de la population. C'est l'extrême droite, mais c'est une partie de la droite également, hein. On a vu dans toutes les discussions qu'il y avait au sujet de l'arrivée massive de migrants comme ça qui allait remplacer ici la culture française en France, quoi. Et ça, je pense qu'il faut faire très 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 attention à pas tomber là-dedans. Et c'est pour ça que, enfin, je sais pas, par exemple, on a à l'approche d'une élection, des élections européennes, bon, on en parlera plus tard, hein, mais c'est vrai que ces derniers mois, bon, on a vu que le contexte social, ça a fait qu'on a éclipsé un petit peu les questions identitaires comme celle-là, les questions de migration comme celle-là du devant de la scène, pour plutôt parler de questions sociales, de parler de questions démocratiques, et c'est pas plus mal, parce qu'en fait, ce qu'on constate, c'est que, enfin, ça a toujours été dans les vieilles recettes d'une certaine classe, une partie de la classe politique. Quand on constate qu'il y a une partie de la population qui subit des inégalités, qui est dans la galère, qui a du mal à finir les fins de mois, qui a du mal à remplir son frigo, plutôt que de faire en sorte que cette partie de la population cible les réels responsables de leur situation, en l'occurrence la petite minorité de la population qui s'en met plein la poche sur le dos de la majorité, eh bien c'est plus facile de dire que le responsable, c'est l'immigré, c'est le migrant qui va arriver et puis piquer votre travail, c'est la personne qui touche un petit peu moins, qui touche le RSA pendant que vous gagnez le SMIC, c'est le mythe de la famille d'immigrés qui a je sais pas combien d'enfants pour toucher les allocations familiales. En fait, c'est toujours plus facile de faire en sorte que les gens s'attaquent à leur voisin qui est beaucoup plus proche qu'eux, qu'au véritable responsable de leur situation.
C'est comme ça que vous expliquez, par exemple, le débat autour de l'aide médicale d'État que certains voudraient supprimer pour les immigrés sans papier?
Oui, en plus, sans parler du fait que les chiffres, généralement, qui sont annoncés par Marine Le Pen et par le Front National à ce sujet-là, sont complètement faux. Mais en plus, enfin, si dans ce pays, c'est pas parce qu'on supprime l'aide médicale d'État que les gens vont avoir plus de facilité pour se soigner, que les gens vont avoir plus de pouvoir d'achat, qui vont avoir plus de facilité pour se loger. C'est pas en s'attaquant aux plus faibles qu'on va sortir de la crise.
Autre question d'actualité, Leïla Chaïbi. La place de la République était noire de monde hier pour réclamer la démocratie en Algérie. Quel regard portez-vous sur le mouvement de protestation qui se déroule en Algérie?
Ça fait toujours plaisir d'assister à ces moments-là où le peuple se soulève et puis réussit à faire tomber, à faire entendre raison à un gouvernement. Moi, je suis d'origine tunisienne, ma mère est française et mon père est tunisien. Et il y a quelques années, quand Ben Ali, l'ancien président de la Tunisie, l'ancien dictateur de la Tunisie, est parti, s'est enfui, alors que tout ça avait démarré à la base par Mohamed Bouazizi, un marchand de légumes qui s'immole, qui est diplômé, qui trouve pas de boulot, qui en vient à vendre des légumes, et puis tout ça crée un soulèvement de la jeunesse qui en fait mène en quelques semaines à la chute, à la fuite du dictateur. C'était carrément inimaginable. Enfin, 2 mois avant, jamais personne n'aurait imaginé que le peuple là-bas puisse faire tomber le dictateur. Et là, ce qui s'est passé en Algérie, enfin, c'est la même chose. Ça fait des années qu'on nous dit Bouteflika, il est en place. De toute façon, il partira pas. Et je trouve ça beau, en fait. Je trouve ça beau ce moment où la souveraineté populaire, ça veut dire quelque chose. C'est pas un mot vain. Et c'est un moment donné où le peuple, en plus, là, de façon complètement pacifique, avec une inventivité dans les slogans.
Et une façon de manifester assez originale, puisqu'il y a même des brigades qui sont chargées de nettoyer les rues une fois que la manifestation est terminée. Il n'y a pas de dégradation, par exemple.
Complètement. C'est une manifestation autogérée, hein, où le peuple se prend en charge lui-même et réussit à faire entendre raison aux gouvernants. Après, maintenant, là, c'est pas fini, parce que c'est pareil, en fait. On nous dit souvent, en fait, des fois, on a l'impression que il y aurait certains peuples qui auraient droit à la démocratie, et puis d'autres parce qu'ils mériteraient, comme par exemple les peuples d'Europe de l'Ouest. Et puis il y aurait d'autres peuples qui seraient bons qu'à en fait avoir le choix entre la dictature ou l'islamisme. Mais je crois que non, une révolution comme ça, une révolution populaire, ça se fait pas du jour au lendemain. Et il y a des questions qui se posent, qui sont devant nous. Déjà, en l'occurrence, la première, c'est faire en sorte qu'en fait le quatrième mandat de Bouteflika il dure pas 10 ans de plus, mais donc c'est pas fini. Mais là, je pense qu'une fois que les gens se sont mis en mouvement, c'est difficile de faire en sorte qu'ils retournent calmement chez soi, à la maison, chez eux. Et là, il y a tout un tas de gens qui ont pris goût à l'engagement collectif, au soulèvement populaire. Et je pense que c'est un mouvement qui n'est pas prêt de s'arrêter.
On va parler des élections européennes dans un instant. Tout de même, les Gilets jaunes. Comment expliquez-vous la violence de ce week-end aux Champs-Élysées? Est-ce que cela discrédite le mouvement des Gilets jaunes?
Depuis ça fait 19 semaines maintenant, 18 semaines que le mouvement des Gilets jaunes a démarré. Ce mouvement, dès le début, il a eu un énorme soutien de l'opinion publique en France. Beaucoup plus que les derniers mouvements sociaux qu'on avait connus, hein, beaucoup plus que le mouvement des cheminots, pour prendre celui-là, qui était il n'y a pas très longtemps.
Les Gilets jaunes ont finalement réussi ce que vous aviez tenté de faire avec Nuit Debout?
Nuit Debout, en fait, on était encore dans un autre contexte, peut-être différent, en fait, parce qu'au départ, disons que les personnes qui se sont mises en mouvement, justement, avec le mouvement des Gilets jaunes, c'était des personnes qu'on ne voyait pas à l'époque de Nuit Debout. Nuit Debout, c'est un mouvement qui est né dans les centres-villes, à Paris par exemple, mais dans d'autres centres-villes urbains, où d'ailleurs, faut se rappeler du contexte, donc on était l'année qui suivait les attentats, place de la République, une place sur laquelle on s'était réunis pour pleurer, quand on était en deuil, on était le pays était en situation d'état d'urgence, et tout d'un coup, avec Nuit Debout, il y a des centaines de personnes qui tous les soirs se réunissent sur la place de la République pour inventer un nouveau.
Vous étiez présente.
Moi j'étais, j'ai fait partie des initiateurs et des initiatrices de Nuit Debout avec François Ruffin. On s'attendait pas du tout à ce que le mouvement comme ça continue pendant des semaines et des semaines. C'est vrai qu'à un moment donné, on s'est dit, tiens, le fait qu'il y ait des gens comme ça qui se déplacent chaque soir place de la République et puis dans je sais pas combien de villes de France, peut-être qu'en fait ce mouvement va nous permettre en gros de faire reculer François Hollande sur un certain nombre de choses, en l'occurrence la loi El Khomri d'abord, et puis pourquoi pas, enfin c'est vrai qu'on s'est pris à rêver à un moment donné. Ça n'a pas été le cas de ce mouvement. Une question qu'on se posait nous à l'époque, c'était comment on fait en sorte que ce mouvement dépasse la mobilisation d'une population qui était très urbaine. Et on n'a pas vraiment réussi à le faire. Là, on était sur la question inverse avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui est parti des périphéries. C'est un mouvement qui est parti de non pas des centres-villes, mais d'endroits qui étaient abandonnés par les services publics.
La France des ronds-points.
Voilà, la France des ronds-points, ouais. Ouais, ouais. Et une France qu'on n'entendait pas, et puis qui tout d'un coup s'est rendue visible. Mais le point commun, peut-être, en fait, entre ces deux mouvements, au-delà du fait que, évidemment, enfin, clairement, le mouvement des Gilets jaunes a beaucoup plus porté ses fruits et a été beaucoup plus fort et beaucoup plus important que mon petit mouvement de Nuit debout qui paraît tout petit, en fait, maintenant, en le comparant. Mais le point commun, en fait, c'est qu'à chaque fois, il y a des gens qui n'avaient jamais mis les pieds en manif, qui n'avaient jamais mis les pieds dans un syndicat, qui ne s'étaient jamais syndiqués, qui ne militaient pas, qui tout d'un coup prennent goût à l'engagement collectif. Et tout d'un coup se réveillent, Nuit debout, donc ils se sont mis debout. Là, les Gilets jaunes, et donc je pense que l'apport du mouvement des Gilets jaunes, il va falloir le voir sur le moyen terme. Il y a des revendications qui sont portées. Je pense pas que le gouvernement va satisfaire ces revendications-là. On verra ce que ça donne à l'issue du grand débat, mais bon, voilà, soyons lucides. On a vu qu'il y avait une grosse tentative de la part du gouvernement plutôt de vouloir tuer le mouvement en le remplaçant par le grand débat, ce qui n'a pas fonctionné parce que la mobilisation a continué.
Et ces violences d'hier, de samedi,
que ce soit clair, moi, les violences, enfin moi, je trouve que c'est une connerie. Je condamne les violences. Aller foutre le feu à un immeuble où il y a une femme enceinte, un gamin, enfin c'est voilà, et où un pauvre kiosquier qui touche le SMIC, qui a rien demandé, qui est sur les Champs-Élysées, c'est complètement débile.
Et tous les commerces brûlés d'une manière générale.
Et tous les commerces brûlés, oui, également. Mais moi, c'est, enfin, disons que j'aurais, ce qui me fait de la peine, plus que le Fouquet's. Enfin, je suis désolée, il y a aussi quelque chose peut-être de l'ordre du symbolique. Mais moi, je suis plus énervée quand je vois le kiosquier en feu, que quand c'est le Fouquet's où je sais que le lendemain il va avoir son assurance et que ça va être reconstruit. Mais je pense que le problème de ces violences-là, en fait, c'est que du coup, c'est ce qui fait que quand vous allumez la télé ce week-end, vous entendez parler que des violences. Et que d'abord, quand on veut parler du mouvement des Gilets jaunes, on va parler des violences. Du coup, quand on parle des violences, ben, on va pas parler du fond. On va pas parler de ce qui fait que ce mouvement, au bout de 18 semaines, il est toujours là. De tous ces gens qui revendiquent une justice sociale, c'est-à-dire le fait d'avoir un travail qui leur permet de nourrir leur famille, une justice fiscale, c'est-à-dire le fait que chacun contribue à l'impôt à hauteur de ses moyens, puis avec en retour, ben voilà, des services publics, quels que soient ses revenus, là où il habite sur le pays, et la démocratie, donc c'est-à-dire un partage du pouvoir et le fait d'avoir le droit d'avoir son mot à dire sur les personnes qui nous représentent. Et donc ça, le gouvernement a répondu sur rien là-dessus. Le problème, c'est que quand il y a des violences, c'est contre-productif. Moi, je comprends après que je comprends en fait que qu'il y ait des gens qui soient énervés. Je dis, il faut dissocier deux choses. Il y a tout un tas, on le sait, hein, des milliers de personnes de Black Bloc qui sont venues de toute l'Europe ce week-end avec l'intention d'en découdre. C'est les mêmes qui étaient là le 1er mai qui, pendant la manif syndicale, qui ont tout pété dans Paris. Et pour moi, en fait, c'est contre-productif. C'était les mêmes qu'on avait eu à Nuit debout à un moment donné. C'est contre-productif à partir du moment où on va parler que de ça. Et surtout, je pense que ce qui est essentiel de nos jours, et c'était la force du mouvement des Gilets jaunes, c'est d'avoir l'assentiment populaire. C'est-à-dire que quand les gens, même s'ils ne participent pas au mouvement, ils allument la télé. Moi, je pense souvent cette image de la petite mamie devant sa télé, qu'elle se dise « Oh, bah tiens, ça pourrait être mon petit-fils. » D'avoir l'assentiment de la population. Et à partir du moment où il y a de la violence, on n'a plus cet assentiment-là, on n'a plus le soutien de l'opinion publique. Et dans le rapport de force, ça pèse dans le rapport de force vis-à-vis du gouvernement.
Alors, vous êtes candidate aux élections européennes pour la France insoumise, Leïla Chaïbi. Vous êtes en troisième position sur la liste. Vous avez donc de très grandes chances d'être parlementaire européenne le 26 mai. Une liste dirigée par Manon Aubry, une ancienne militante associative comme vous. Quel est pour vous l'enjeu de ces élections européennes ?
Alors, oui, donc Manon Aubry est une candidate d'ouverture. Donc c'est l'ancienne porte-parole d'Oxfam, l'ONG Oxfam, et elle était porte-parole d'Oxfam sur spécialisée dans la lutte contre l'évasion fiscale et contre les inégalités. C'est quelqu'un qui a jamais été engagé en politique. Sur notre liste, donc il y a des Manon Aubry, il y a des donc moi comme vous le disiez, moi j'ai un parcours enfin à la base associatif et j'ai été engagée pendant un certain nombre d'années pour le droit au logement et contre la précarité. Mais sur notre liste, il y a Bernard Borgiali qui est un cheminot. Là, je vous parle dans les 10 premiers, hein, en plus, donc pas juste pour faire joli sur la photo. Mais on a Anne-Sophie Pelletier qui a travaillé dans des EHPAD auprès des personnes âgées, qui a mené une grève de plus de 100 jours dans un EHPAD et qui dénonce avec force et son combat qu'elle veut porter au Parlement européen le fait que nos aînés ont droit à une fin de vie dans la dignité et que c'est scandaleux que ça devienne une manne financière, le business de la fin de vie, en fait, dans les maisons de retraite où les aînés sont maltraités. Voilà, on a des gens qui viennent d'Europe Écologie, comme Serge Coronado, par exemple, qui est sur notre liste.
Qui est venu dans cette émission.
Oui, d'ailleurs, ouais. En fait, voilà, on a une liste qui est vraiment à l'image de la diversité, je pense, de la population, une liste qui est pas composée de professionnels de la politique. Donc ça, c'est une force. Après, c'est vrai que souvent, ces derniers temps, c'est difficile de parler d'Europe, en fait, parce que c'est vrai que c'est une élection qui passionne très peu les foules. C'est l'élection où il y a le plus d'abstention. Et souvent, les gens ont l'impression que c'est déconnecté, les enjeux européens, de leur quotidien. Que c'est quelque chose, c'est loin, Bruxelles. Déjà, de manière générale, il y a un désaveu, il y a un désintérêt de la politique qui paraît éloigné du peuple. Mais alors, ça, c'est particulièrement vrai concernant les élections européennes. Ces derniers temps, pourtant, on avait un mouvement, le mouvement des Gilets jaunes, et qui portait des revendications qui, au contraire, sont très, très liées aux enjeux européens. On va prendre, par exemple, la question de la justice fiscale, donc, qui était demandée par les Gilets jaunes. On peut se dire, mais quel rapport avec l'Europe, avec les élections européennes du 26 mai, la justice fiscale? Eh bien, si, il y a un gros, gros lien. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on constate, c'est que d'où a démarré ce mouvement des Gilets jaunes? Parce qu'il a démarré par la taxe carbone. Emmanuel Macron est président de la France dans une Europe où il n'y a pas d'harmonisation fiscale, où l'impôt sur les sociétés, il est plus bas ailleurs. Ce qui fait qu'en France, vous avez des entreprises qui vont choisir de faire échapper leur chiffre d'affaires au Luxembourg et en Irlande, qui sont deux paradis fiscaux qui existent en Europe, parce que ça leur revient moins cher, elles auront moins d'impôts à payer qu'en France. Du coup, qu'est-ce que fait Emmanuel Macron pour répondre à ça, à ce qu'on appelle donc ce dumping fiscal? Eh ben, il va baisser, comme tous les autres présidents d'ailleurs d'Europe, hein, il va baisser les impôts sur les sociétés en France. Ce qui fait que comme il baisse les impôts sur les sociétés en France, eh ben pour compenser, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il augmente les impôts de celles et ceux qui peuvent pas faire exfiltrer leur argent ailleurs dans les paradis fiscaux, et il augmente les taxes. Les taxes, la TVA, les taxes comme la taxe carbone. La taxe sur le tabac, par exemple, c'est l'impôt le plus injuste, parce que vous soyez smicard ou milliardaire, vous payez la même chose sur votre paquet de cigarettes. Et d'ailleurs, Younous Omarjee, qui est un de nos deux eurodéputés France Insoumise actuels, il a retrouvé une lettre que Emmanuel Macron avait envoyée à la Commission européenne, dans laquelle il expliquait clairement que pour compenser la baisse des charges sur les entreprises qui étaient en place via le CICE, le Comité Impôt Compétitivité Emploi, eh bien, Emmanuel Macron disait « je vais augmenter les taxes sur le tabac ».
L'invité de Pluriel est Leïla Chaibi, candidate La France Insoumise aux élections européennes. On se retrouve dans quelques instants.
Animé par Loïc Barrière.
Retour sur le plateau de Pluriel. Nous sommes toujours en compagnie de Leïla Chaibi, candidate à la France Insoumise aux élections européennes. Alors, tout à l'heure, vous nous avez parlé de la question de la politique fiscale. Vous nous démontrez que ça a un impact. Ce qui se passe dans l'Union européenne a un impact en France. La France Insoumise veut se débarrasser des traités européens. Est-ce que vous pourrez, malgré tout, changer les choses au Parlement, améliorer la vie des Européens si ces traités sont maintenus? Il y a peu de chances qu'on se débarrasse de ces traités, même si vous faites un bon score.
Vous posez une très très bonne question, parce que c'est vrai que la France insoumise veut, comme vous disiez, se débarrasser de ces traités européens, c'est vrai. Mais c'est pas les eurodéputés, c'est pas même en envoyant un maximum d'eurodéputés France insoumise au Parlement européen là le 26 mai, c'est pas les élus au Parlement européen qui vont choisir de changer les traités. C'est une politique en fait qui se mène avec via les chefs d'État, donc à l'échelle nationale. Donc en l'occurrence là, si Jean-Luc Mélenchon est élu président de la République en 2022. Mais d'abord en fait, je voudrais juste revenir sur pourquoi on veut se débarrasser des traités européens. C'est pas une question de principe, hein. C'est parce que en fait nous on a un projet pour l'Europe. Contrairement à souvent ce qu'on va raconter, c'est vrai que on a un président de la République qui voudrait faire en sorte qu'il y ait que d'un côté ce que lui appelle les progressistes et de l'autre côté les nationalistes. Et nous, il voudrait bien nous ranger souvent dans le camp de la France insoumise. Vous êtes repliés sur vos frontières, vous êtes des nationalistes, vous êtes pour le Frexit par exemple.
C'est pas le cas.
Ce qui est complètement faux. Pas du tout. Nous, au contraire, ce qu'on explique, c'est que ce qu'on revendique, on n'est pas les seuls à le porter en Europe. Ce qu'on revendique, c'est quoi ? C'est plus de services publics, c'est moins d'inégalités, c'est plus de justice sociale. C'est, comme je disais, une harmonisation fiscale, une harmonisation sociale. Et ça, c'est un vrai projet qu'on a pour l'Europe et que d'autres peuples européens portent aussi. Le problème, c'est que c'est un projet qui est contradictoire avec ce que nous imposent les traités européens. Si on veut une Europe qui soit cette Europe de la justice sociale, de la solidarité, des services publics, il faut sortir de ces traités européens. Parce que les traités européens empêchent de, par exemple, développer les services publics. Je prends l'exemple des services publics. Il y a la façon dont sont construits les traités européens, dont est construite l'Union européenne avec ses traités européens actuels, un dogme qui est celui de la concurrence libre et non faussée. Il faut que ça, la règle de la concurrence libre et non faussée s'applique à tous les services à partir du moment où il y a un échange commercial. Et c'est ce qui fait que, dès que vous avez un service public où il y a un rapport commercial, par exemple, le service public, par exemple, dans les transports, quand vous allez, vous achetez votre ticket de train, donc il y a un rapport commercial. Quand vous allez à l'hôpital, vous avez une facture, donc il y a un rapport commercial. Eh bien, l'Union européenne considère que tous ces services-là, à partir du moment où il y a un rapport commercial, doivent être mises en concurrence et que l'État n'a pas le droit d'intervenir. Et c'est ce qui fait en fait que du coup, on n'est plus dans la logique d'un service public où, quel que soit votre endroit où vous habitez sur le territoire, quel que soit votre revenu, vous avez le droit à ce qui est en fait le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Le service public, c'est ça, le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Mais au contraire, vous mettez les services publics sous le dogme des logiques de rentabilité, alors que c'est en contradiction avec ce que ça devrait être. Donc juste, d'abord, c'est pour cette raison qu'on veut sortir des traités européens.
Alors, ensuite, je prolonge tout de même la question. Dans ce cas, si ce n'est pas vous, Leïla Chaïbi, qui allez
qu'on va faire là-bas
changer les traités européens, à quoi allez-vous servir ?
C'est vrai que, oui, on peut se dire, bah, alors qu'est-ce que là, elle nous raconte qu'en fait, de toute façon, dans le cadre des traités européens, il n'y a pas du tout moyen de mettre en œuvre les politiques là, de la France insoumise, donc à quoi ça sert d'envoyer des députés insoumis au Parlement européen ? Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais au contraire, ça sert à énormément de choses. Malgré ce constat-là, ça sert à beaucoup de choses. En fait, de façon très concrète, moi, je comparerais aux 17 députés insoumis qui sont à l'Assemblée nationale en France, en fait. Le cadre de la Ve République pour des députés insoumis, il est aussi contraignant que le cadre de l'Union européenne pour des eurodéputés insoumis, en fait. Et pourtant, qui dirait que les 17 députés insoumis de l'Assemblée nationale ne servent à rien ? C'est-à-dire qu'à quoi on va servir, à quoi on peut servir concrètement ? Déjà, on a un programme, on a des propositions, même si elles sont pas compatibles avec les traités, on va faire ce travail qu'on fait déjà, que nos députés à l'Assemblée nationale font, c'est-à-dire le travail d'amender les directives qui sont proposées, de faire ce travail sérieux, parce que qui permet aussi de montrer à quoi on servirait si on avait le pouvoir. Ensuite, à quoi on veut pas servir ? À faire en sorte de servir de lanceur d'alerte, c'est-à-dire que tout ce qui se passe dans ce Parlement européen très technocratisé... C'est très opaque, alors que c'est très très en lien avec les politiques qui sont menées au niveau national.
Donc il y aura beaucoup de communication sur les votes et ce que ça peut impliquer pour la vie de tous les Européens.
Complètement. Le lien, par exemple, quand Macron décide d'augmenter, on parlait de l'augmentation des taxes, quand Macron décide d'augmenter les taxes sur, par exemple, le tabac, parce qu'en fait, il a eu une alerte de la Commission européenne, mais en fait, ça, il le dit pas, ben nous, on sera là pour le dire.
Mais vous êtes du côté de l'industrie du tabac, alors? C'est le lobby du tabac qui vous incite à dire cela?
Non, mais c'est vrai que ça fait deux fois que je cite ça, mais j'aurais pu dire les taxes sur le carburant ou la TVA. C'est parce qu'en fait, je pense à ça, parce que comme je vous disais, notre eurodéputé Younous Omarji est tombé sur un courrier envoyé par Macron à la Commission européenne où il expliquait, il justifiait l'augmentation. Mais j'aurais pu parler des autres taxes, en fait.
Alors, Leïla Chaïbi...
Mais juste pour terminer sur l'utilité, en fait, des députés de la France insoumise, donc comme je vous disais, il y a faire sortir ce qui se passe de ce Parlement européen opaque vers l'extérieur, mais il y a aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire faire rentrer la voix du peuple dans ces institutions très opaques. Et moi, par exemple, il y a un combat que j'ai commencé déjà à mener, que je veux mener... dans le cadre de mon mandat, si je suis élue députée européenne, c'est prendre la lutte des travailleurs de McDonald's. Les travailleurs de McDonald's, il y en a partout en Europe. McDonald's, en Espagne, en Grèce ou en France, ça s'appelle McDonald's. Et partout, en fait, McDonald's pratique une politique où les salariés sont très mal payés, avec des contrats précaires, et une politique d'évasion fiscale, où l'argent qui est produit, qui rentre dans les caisses de McDo dans les pays... ne va pas, échappe à l'impôt parce qu'il les envoie directement dans les paradis fiscaux. Et ça, c'est des questions qui peuvent se régler qu'à l'échelle européenne. Et je pense qu'elles peuvent se régler à la fois avec le travail dans l'institution, mais en faisant rentrer la voix des travailleurs de McDo dans le Parlement européen. J'ai pris l'exemple de McDo, mais ça aurait pu en être d'autres.
Alors, vous voulez lutter contre les lobbies au Parlement européen. De quelle manière procéderez-vous? Car ces lobbies ont beaucoup d'argent.
C'est vrai qu'ils ont beaucoup d'argent. C'est quand même assez dingue, hein, quand vous voyez que là, il y a deux semaines, on a appris que Coca-Cola subventionnait la présidence roumaine du Conseil de l'Union européenne. Donc, c'est quand même assez dingue de se dire qu'il y a des multinationales comme ça qui font des chèques aux institutions et en échange comme ça, par exemple, on sait qu'il y a une taxe soda qui doit être discutée au sein des institutions européennes. Vous imaginez bien qu'une fois que vous avez fait votre chèque de plusieurs millions d'euros, du coup, on n'aborde pas les choses de la même manière. Donc je pense que la façon dont on va lutter contre les lobbies, déjà, il y a un devoir d'exemplarité. Vous savez qu'à Bruxelles, il y a, je crois que c'est l'équivalent de 400 lobbyistes par parlementaire européen. Enfin, c'est quelque chose d'assez énorme.
Ils ont tous leur bureau. Vous-même, comment vous résistez à cela?
C'est-à-dire que déjà, il y a les questions de transparence, hein. Sur l'ensemble des votes, il y a la question de refuser les cadeaux, parce qu'apparemment c'est souvent de cette manière-là qu'ils procèdent. C'est une invitation au resto ou
des voyages
petits cadeaux,
à l'étranger.
Des voyages, voilà, tout ça. Nous, on a une charte éthique de la France insoumise, des élus de la France insoumise, pour refuser ce genre de choses et s'engager à une totale transparence dans les dépenses des députés.
Est-ce qu'il faut que cette charte éthique s'applique à l'ensemble des parlementaires européens?
Complètement, ouais. Ouais. Évidemment, on commence à l'appliquer à nous-mêmes parce que c'est ce sur quoi on a de la marge de manœuvre, mais tout en portant, le fait, la revendication que ça s'applique à l'ensemble des parlementaires européens. Parce que c'est pas possible d'être... Le problème, c'est comme ça qu'on en arrive à ce que les institutions européennes sont plus dictées. Quand on voit la façon dont sont construits les traités européens et dont est dictée la politique à l'échelle européenne, c'est plus par l'intérêt, en fait, l'intérêt particulier des lobbies que par l'intérêt général des peuples.
Qu'est-ce qui différencie fondamentalement l'Europe que veut construire Emmanuel Macron et celle que vous défendez?
Je pense qu'on est sur deux projets complètement opposés. Après, c'est vrai que quand on se contente des aspects cosmétiques des propositions d'Emmanuel Macron, on peut se dire que finalement, il y a des jolis mots quand il parle de l'Europe qui protège.
Il parle aussi de SMIC européen.
Alors oui, mais alors justement, c'est que dès qu'on creuse, il parle de SMIC européen, mais dès qu'on creuse sa proposition, en fait, vous avez vu dans la même lettre, donc il parle de SMIC européen, et puis il explique un SMIC européen adapté au niveau de vie de chacun des pays. Donc alors là, on comprend plus. C'est un SMIC européen pour vous et moi dans notre tête, on a le même, c'est un salaire minimum à l'échelle européenne. Et là, il parle pourtant que c'est en fait un SMIC européen, mais adapté en fonction de chacun des pays. Donc ça ne veut rien dire. C'est comme quand il parle de l'Europe qui protège. L'Europe qui protège qui? L'Europe qui protège justement les lobbies. Mais là, pourtant, qu'est-ce qui protège? C'est les services publics. C'est le service public qui permet que de vous protéger, de faire en sorte que vous avez la garantie d'avoir accès à l'éducation, accès à la santé, pouvoir vous déplacer, pour prendre que ces exemples-là. Et justement, c'est l'Europe qui met en danger les services publics, qui empêche les gens d'avoir de la protection.
Leïla Chaïbi, vous militez pour l'écologie. On a demandé beaucoup d'efforts aux citoyens européens, des efforts personnels, recycler ses déchets notamment. Mais LFI, la France Insoumise, souhaite que ces efforts soient partagés par les gouvernements et les industriels. Si vous êtes élu, qu'est-ce que vous demanderez précisément pour que la réglementation protège davantage la santé des Européens ?
Peut-être d'abord revoir les financements de la politique agricole commune, qui pour l'instant sont destinés à financer des productions agricoles qui sont basées sur un modèle productiviste, alors que je pense que c'est des fonds qu'on pourrait réinjecter dans les circuits courts, dans les agriculteurs bio. Qui n'utilisent pas de glyphosate. Une deuxième mesure aussi, par exemple, ce serait... vous savez qu'il y a... On a parlé ces derniers temps pas mal du glyphosate, donc un engrais qui est clairement reconnu comme étant toxique et qu'on a tous et toutes dans nos assiettes. L'Union européenne a eu la possibilité de faire en sorte que ce soit interdit, le glyphosate. Elle est passée à côté. Il y a un dispositif à l'échelle européenne qu'on appelle... l'initiative citoyenne européenne, en fait. C'est quelque chose qui vous permet, quand vous avez un certain nombre de signatures, de mettre de citoyens, donc une pétition qui atteint un certain nombre de signatures, de mettre à l'ordre du jour des institutions européennes tel ou tel sujet. Ça a été le cas pour le glyphosate. Il y a eu énormément de signatures sur la question du glyphosate. Sauf que le problème de ce dispositif, c'est que la Commission européenne a aucune obligation pour le reprendre à son compte. Donc ça mange pas de pain. Et parmi les propositions de la France Insoumise, justement, on propose de réformer cela en faisant en sorte qu'il y ait, à partir du moment où il y a l'initiative citoyenne européenne a atteint le nombre de signataires, que les institutions européennes s'engagent à prendre en compte ce qui a été demandé par les citoyens. Et dans ce cas-là, si ça avait été le cas, ben, sur la question écologique et la question du glyphosate, il y aurait probablement une interdiction.
Alors avec qui la France Insoumise fera-t-elle alliance au Parlement européen ?
C'est important de signaler que en France, la France Insoumise présente une liste et un programme, mais qu'on le fait dans le cadre d'une alliance européenne qui s'appelle Maintenant le Peuple, un mouvement Maintenant le Peuple qu'on a créé avec les Espagnols de Podemos, les Portugais du Bloco, et puis plusieurs autres pays à l'échelle européenne. C'est toujours quelque chose, enfin voilà, qui est en construction et donc on espère élargir. Alors maintenant la question se pose sur est-ce que cette force-là atteindra suffisamment, on répondra aux critères qui permettent de faire un groupe au Parlement européen, sachant qu'il faut avoir un certain nombre de députés, un certain nombre de pays et donc c'est l'objectif en tout cas de peser dans le cadre de cette alliance-là, dans le cadre du Parlement européen.
Alors il y aura plusieurs listes de gauche le 26 mai, Leïla Chaïbi. Pour quelles raisons les électeurs français de gauche devraient-ils choisir la France Insoumise et non pas Europe Écologie, le Parti Communiste, Génération ou le PS qui vient de faire alliance avec Place Publique?
Déjà Europe Écologie, c'est pas moi qui le dis, c'est Jadot lui-même qui a dit la semaine dernière qu'ils n'étaient pas de gauche, que l'écologie devait être compatible avec l'économie de marché, que je sais que ça a fait grincer des dents un peu dans leur camp. Hein. Moi, j'ai des copains chez Europe Écologie qui étaient pas très contents non plus. Mais bon, au moins, ça permet de clarifier les choses. Disons que là, on est un peu sur une logique des Verts à l'allemande qui considèrent que l'écologie est compatible avec l'économie de marché, que l'écologie est compatible avec le libéralisme. Pour Europe Écologie. Maintenant, quand on prend les autres listes de gauche, en fait, ce qui nous différencie, c'est que on est les seuls à revendiquer une sortie de ces traités européens. Et nous, notre objectif, c'est pas de mentir aux gens comme on a pu le faire, certaines listes pendant, à chaque fois aux élections européennes, on entend parler l'Europe sociale, avec des grands mots sur l'Europe de la justice sociale, de la solidarité. Mais en fait, ça restera des 20 mots si on n'explique pas que pour y arriver, il faut sortir de ces traités européens qui sont un carcan et qui nous empêche justement d'arriver à cette Europe sociale. Sortir des traités européens, ça veut pas dire, encore une fois, ça veut pas dire le Frexit, hein. Ça veut dire la possibilité de les changer tous ensemble, de convaincre tout le monde qu'il faut les changer. Et ça, quand on voit que en ce moment, il y a plus de pays qui sont en train de penser à vouloir partir de l'Union européenne que vouloir en rentrer, on a les moyens de mettre la pression pour les changer, ces traités européens, parce que le fait est qu'ils nous mènent dans le mur. Et alors, sinon, si c'est pas possible de les transformer tous ensemble, construire autre chose avec celles et ceux, et notamment dans le cadre de l'Alliance Maintenant le Peuple, qui sont partants pour le faire avec nous.
Quel est le bilan de la France insoumise au Parlement européen? Il y a ce député Younous Omarjee qui a été très actif, notamment sur la pêche électrique.
Oui. Ouais. Alors c'est vrai qu'on a, on a un député.
Il est originaire
insoumis,
de la Réunion.
Younous Omarjee, oui, qui vient de la Réunion. Et qui avait été élu à l'époque, donc il y avait encore les listes avec les régions, donc lui il était élu pour les territoires d'outre-mer. Et puis Emmanuel Morel aussi qui était au Parti Socialiste mais qui a choisi de rejoindre la France Insoumise, donc ça nous fait 2 eurodéputés. Donc c'est pas grand chose, hein, 2 eurodéputés sur 79 députés, rien que pour les Français, hein, députés européens. Et bien pour autant, on a vu que rien qu'avec, quand on regarde le travail de Younous Omarjee, rien qu'avec un seul eurodéputé, on a réussi à obtenir des avancées. Donc Younous Omarjee a obtenu, avec la mobilisation des ONG, l'interdiction de la pêche électrique. L'interdiction de la pêche électrique. Il s'est battu également contre le glyphosate. Donc nous, moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est regarder ce qu'on a réussi à faire avec un eurodéputé. Emmanuel Morel, lui, travaille, il a aussi beaucoup agi contre les traités de libre-échange qui font que vous allez manger du cabillaud ici à Paris, qui a fait le tour de la planète en avion avant de venir dans votre assiette avec une empreinte carbone hallucinante. Donc, si on arrive à faire ça avec uniquement avec 2 eurodéputés, imaginez ce qu'on peut faire si on envoie un groupe au Parlement européen. Donc, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est que ce sera pas un vote inutile, parce qu'au contraire, on est en capacité d'être à la fois des élus qui sont des lanceurs d'alerte, qui font rentrer la voix du peuple dans le Parlement européen, mais aussi qui travaillent concrètement les dossiers pour obtenir des avancées. C'est-à-dire que, on disait tout à l'heure, il faut changer les traités européens pour arriver à notre projet global d'une Europe telle qu'on la veut. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on peut rien faire dans ce cadre-là. Dans ce cadre-là, il y a moyen d'obtenir des avancées et d'obtenir des victoires.
Leïla Chaibi, comment se passe votre campagne électorale? J'ai vu que vous utilisiez parfois des hologrammes, comme Jean-Luc Mélenchon durant la présidentielle. Il faut des moyens de communication différents, innovants, pour convaincre les électeurs?
Mais c'est vrai que, enfin, on aspire à ce qu'on appelle fédérer le peuple. Et on ne peut pas se contenter de se partager le gâteau des électeurs entre ceux qui font encore l'effort de se déplacer pour aller voter, en fait. Nous, on a vraiment une volonté d'aller convaincre les abstentionnistes, les dégoûtés de la politique, ceux qui se disent que ça sert à rien, que c'est tous les mêmes et qu'en fait, ça va pas vraiment changer la vie d'aller voter. Et donc, d'aller mobiliser au-delà des convaincus. De pas, notre objectif, c'est pas de piquer de l'électorat, à la limite, à Europe Écologie ou aux autres. Donc,
parce que habituellement, dans les meetings traditionnels, ne viennent que les adhérents, les sympathisants.
Le fait est que souvent, enfin moi, enfin de mon expérience, j'en fais, on en fait, hein, des réunions publiques, parce que par contre, c'est important de mobiliser les militants. Mais le fait est qu'en grande majorité, quand vous décidez de venir à une réunion publique, c'est que vous êtes déjà convaincu, déjà politisé. Par contre, quand vous êtes pas du tout intéressé par la chose politique, eh bien dans ce cas-là, c'est à nous d'aller faire l'effort d'aller les chercher, ces gens-là. Et donc du coup, c'est là qu'on a mis en place des dispositifs un peu décalés qui sortent de la routine habituelle militante. Et en l'occurrence, là, on a 4 camions, des holovans, 4 camions avec des hologrammes à l'intérieur qui sillonnent la France, qui vont essentiellement dans les petits villages, dans les zones rurales et dans les petites villes. Et qui vont, donc qui démultiplient notre discours. Moi, il y a mon hologramme, donc là, qui est en train de se balader
Donc c'est déjà enregistré.
Ouais, depuis fin janvier. Là, on a refait un enregistrement la semaine dernière, d'ailleurs, donc pour renouveler les hologrammes à l'intérieur. Donc vous avez une série de candidats qui parlent. Et puis après, bon, ça, c'est le dispositif un peu original.
Un peu spectaculaire.
Qui permet en fait d'attirer l'attention. Mais à côté de ça, en fait, à chaque fois, on le couple avec une action sur le terrain, un échange avec les gens, avec les militants locaux, du porte-à-porte, enfin une action plus de terrain, quoi.
Alors, brièvement, comme c'est la première fois que je vous reçois, j'aimerais qu'on évoque un peu votre parcours. Vous êtes candidate aujourd'hui, mais ça n'est pas votre premier engagement. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la politique et pourquoi à gauche ?
Mais en fait, moi, pendant des années, donc j'ai été engagée dans des collectifs de lutte contre la précarité pour le droit au logement.
Jeudi
notamment
Noir.
Le collectif Jeudi Noir, oui, où on était un certain nombre de jeunes, on avait un travail et pour accéder à un logement, c'était le parcours du combattant, alors même qu'on avait un boulot. Et donc là, on a organisé des actions coup de poing, on a réquisitionné des immeubles pour loger des gens, on a fait beaucoup de bruit, on a réussi à avoir toute la presse à l'époque s'intéresser à nous. On avait eu rendez-vous avec le ministre du logement de l'époque qui s'appelait Jean-Louis Borloo, le ministre du logement. Sauf que quand on est face à Jean-Louis Borloo, on a un ensemble de propositions, certaines qui coûtent de l'argent, d'autres qui coûtent 0 €. Et là, on a une fin de non-recevoir en face de nous. Et c'est là qu'en fait, moi, j'ai pris conscience que si je voulais que mes revendications que je portais dans le mouvement social, dans le milieu associatif, elles aboutissent, eh ben, fallait occuper le terrain politique. Fallait occuper le terrain politique avec un projet qui dirait vraiment que le droit au logement est supérieur au droit de rien faire de sa propriété.
Dernière question, vous serez une députée européenne combative ?
Ben j'espère être une députée européenne tisseuse de colère, parce que moi c'est vrai que je me suis toujours nourrie en fait du collectif. Hein. Donc là je pense que c'est la façon dont j'envisage de mener mon mandat au sein du Parlement européen. C'est en collectif avec le reste du groupe des élus, les élus insoumis, et surtout en lien avec justement, là je vous disais, les travailleurs de chez McDo, les travailleurs d'Uber, les gens qu'on représente.
Merci Leïla Chaïbi. Je rappelle que vous êtes candidate La France Insoumise aux élections européennes. Bonsoir.
Merci à vous. Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.